Et si on commençait enfin à percevoir la matérialité du monde virtuel, malgré les apparences, l'envoi d'un mail, un like sur un réseau social, ou encore le visionnage, je le disais, d'une vidéo de chat, provoque bel et bien une dépense d'énergie polluante. À cette pollution énergétique s'en ajoute une autre, celle liée aux matières premières requises pour la production croissante des outils numériques. Malgré cette lente prise de conscience, la course au développement de capacités d'échange virtuel toujours plus rapides et de stockage de données toujours plus vastes ne semble pas prête de s'arrêter, de quoi donner un sacré vertige au bord de la matrice. Pollution numérique, la face cachée du clic, c'est le voyage de l'autre côté de l'écran que nous vous proposons pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parler de ce thème brûlant, nous sommes en ligne avec Anne-Cécile Orgery. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse CNRS en informatique à l'Institut de recherche en informatique et systèmes aléatoires, l'IRISA, et vous êtes directrice du groupement de services du CNRS Eco-Info. Nous sommes également en studio avec Guillaume Pitron. Bonjour.
Bonjour Antoine Beauchamp.
Vous êtes journaliste, réalisateur de documentaires et auteur de L'Enfer numérique, voyage au bout d'un like, paru aux éditions Les Liens qui libèrent. Mais avant d'entamer cette émission, il est l'heure de retrouver celle qui clique plus vite que son ombre, non pas sur les vidéos de chats, mais sur les vidéos de chiots. Il s'agit de Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha.
Bonjour Antoine.
Et on commence ce journal avec une étude parue hier dans la revue Cell et la découverte d'un mécanisme cellulaire responsable de l'aggravation des cancers du sein.
En 2016, une équipe a découvert que lorsque les cellules sont comprimées, leur noyau se déforme au point de se casser. Cette rupture de l'enveloppe nucléaire, de l'enveloppe du noyau qui renferme l'ADN, a pour conséquence d'abîmer l'ADN. Alors dans cette nouvelle étude, la même équipe montre que c'est aussi le cas pour les cellules cancéreuses, et en particulier sur le cancer du sein. Sur des cellules tumorales humaines étudiées in vitro, les chercheurs montrent que dans le développement d'une tumeur mammaire, il y a des contraintes mécaniques sur la tumeur, qui se développent en général à l'intérieur des canaux lactiques. Lorsqu'elle sera à l'étroit dans ce canal, elle va commencer à le déformer, et au bout d'un moment, elle va briser l'enveloppe du canal, puis envahir les tissus autour. Ce passage d'une tumeur in situ, dans le canal lactique, est donc relativement bénigne, à une étape invasive, où là la maladie est beaucoup plus difficile à soigner. Ce passage-là serait causé par une enzyme, l'enzyme TREX1, ou en anglais TREX1. Cette enzyme devient une nouvelle cible thérapeutique pour le traitement du cancer du sein. Mathieu Piel est chercheur CNRS à l'Institut Curie et le co-auteur de cette étude.
Ce qu'on a pu montrer, c'est que pendant cette période où la tumeur est un peu à l'étroit dans le canal lactique, les cellules qui sont sur les bords de la tumeur vont être écrasées contre la paroi du canal. Et cet écrasement va induire des cassures de leur noyau. Et ces cassures du noyau vont provoquer des cassures de l'ADN qui est donc dans le noyau. Et ces cassures d'ADN répétées vont conduire en fait à cette étape suivante, vont favoriser l'étape suivante d'invasion du tissu environnant. Et nous, dans notre étude, ce qu'on a montré, c'est que lorsque les cellules sont déformées, par exemple dans ces tumeurs qui grandissent dans les canaux lactiques, l'enveloppe du noyau va se rompre et TREX1, au lieu de simplement attaquer l'ADN qui est en dehors du noyau, va se mettre aussi à attaquer l'ADN qui est dans le noyau, chose que normalement il ne doit pas faire du tout. Donc, puisque la barrière de l'enveloppe nucléaire l'empêche d'accéder à l'ADN dans le noyau. Donc cette enzyme qui normalement protège la cellule va se mettre à l'attaquer, en fait, à attaquer l'ADN de la cellule dans le noyau. Ça va générer des dommages à l'ADN de la cellule de manière répétée pendant toute cette période où ces cellules vont se retrouver déformées, coincées, écrasées contre la paroi du canal lactique pendant que la tumeur grandit. Et en fait, ces dommages à l'ADN répétés vont finir par transformer la cellule et la rendre, ce qu'on dit dans le langage un peu du cancer, on la rend plus agressive. Et en particulier, cette agressivité, d'un point de vue biologique, c'est qu'elle va se mettre à digérer les tissus qui sont autour et à envahir les tissus qui sont autour, ce qui permet d'être un peu moins écrasé, de faire un peu plus de place. Mais pour une cellule tumorale, en fait, ça va lui faire qu'au bout d'un moment, ce phénomène va faire un trou dans la paroi du canal lactique et va faire une porte de sortie pour la tumeur qui va se mettre à se répandre autour dans les tissus environnants, qui va aller faire une tumeur ailleurs qu'on appelle une métastase.
Et comme chaque jour, vous pouvez retrouver cette étude et toutes les autres sur le fil Twitter de l'émission @laméthodeFC. Vous pouvez aussi réécouter le journal des sciences et l'émission sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. Et on passe au bref. La JAXA, l'agence d'exploration spatiale japonaise, précise son programme de nettoyage spatial.
Et à l'heure où je vous parle, des dizaines de milliers de débris tourbillonnent au-dessus de nous à près de 30 000 km/h. La pollution spatiale est un problème de taille qui risque à terme de paralyser l'activité spatiale humaine. La JAXA se lance donc dans les premières démonstrations à grande échelle de nettoyage de déchets. L'agence japonaise vient de s'associer avec la firme Rocklab et la société Astroscale. La première étape de ce programme prévoit l'envoi en 2023 d'un satellite pour étudier plus précisément ces débris et leurs mouvements en orbite. La seconde étape, tester une nouvelle technologie d'élimination de ces débris qui consiste grosso modo à les désorbiter. Les premiers essais auront lieu en 2025.
En bref toujours, selon une étude parue dans les comptes rendus géosciences de l'Institut de France, nous avons peut-être découvert les plus anciennes traces de domestication du feu.
Et peut-être. Dans le sud de la France, dans la Cône de l'Arago, une équipe française a identifié les traces d'un ancien feu qui remonte à 560 000 ans. Les plus anciennes traces que nous avons dans cette grotte sont vieilles de 400 000 ans. Pour le moment, l'origine de ces feux est encore débattue. Nous ne savons toujours pas s'ils sont d'origine humaine ou naturelle, s'il s'agit d'un incendie. Mais la méthode utilisée par ces chercheurs est novatrice. Elle combine des mesures de susceptibilité magnétique, un examen microscopique et de la spectroscopie Raman pour débusquer parmi les sédiments d'anciens résidus de combustion.
Et enfin, dans une étude parue dans The American Midland Naturalist, les scientifiques ont découvert une nouvelle espèce animale biofluorescente.
L'année dernière, les chercheurs ont découvert, par hasard, que l'ornithorynque est biofluorescent, c'est-à-dire qu'il brille à la lumière ultraviolette. Une caractéristique fréquente chez les plantes, les invertébrés, mais peu connue chez les mammifères. Depuis, les naturalistes du monde entier parcourent avec des lampes UV les collections des muséums. Après l'opossum, après l'hérisson, l'écureuil volant, c'est au tour d'un petit rongeur fouisseur d'être biofluorescent, le rat à poche de la famille des Geomyidae, c'est proche du castor. Une équipe internationale a éclairé des animaux vivants et taxidermisés, et sous une lampe UV, leur pelage devient rose vif sur le ventre et bleu près des babines. La biofluorescence reste un mystère dans l'histoire évolutive des mammifères.
Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences.
Ce qui inquiète particulièrement ces deux riveraines, ce sont les systèmes de secours du centre de données. En cas de coupure électrique, des groupes électrogènes sont toujours prêts à prendre le relais, alimenté par 540 000 litres de fioul stockés dans les sous-sols.
Et donc nous sommes allés voir le CAUE, c'est-à-dire le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de Seine-Saint-Denis, qui est chargé de conseiller les municipalités et les particuliers qui envisagent de construire soit une maison, soit un bâtiment. Et en conclusion, on a obtenu un courrier qui, donc, au vu du dossier, l'architecte qui nous a reçus a regardé, examiné le PLU, le plan local d'urbanisme, et qui a pu conclure, je vais juste vous lire la phrase qui parle d'elle-même, c'est que le data center représente un danger pour le quartier, non pas par son activité propre, mais par la quantité de fioul stocké sur le site, et par la présence de batteries de sauvegarde implantées sur le site et à proximité des habitations. De ce fait, cette activité n'est pas compatible par sa nature, entre guillemets, avec le caractère résidentiel du quartier, et il est de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
Voilà un mot qui vient tordre le cou un petit peu à l'aspect magique de nos usages du numérique, Guillaume Pitron, c'est ce mot de data center. Est-ce qu'on est actuellement en train de sortir d'un long sommeil numérique, d'un long rêve numérique ?
Ça a certainement été le paradis numérique pendant longtemps parce que le numérique, c'est un grand récit qui permet de faire coïncider la croissance économique, un bien-être social, économique, avec la préservation de la biodiversité, avec la lutte contre le réchauffement climatique. C'est tous les avantages sans les inconvénients, le numérique, c'est la croissance virtuelle. Et donc c'est cette idée qu'on va pouvoir continuer comme ça à croître sans impacter la biodiversité. Or évidemment, rien n'est matériel, Enfin, rien n'est virtuel, tout est matériel, et ô combien matériel quand on parle précisément de ces technologies-là, et les data centers, les questions de data centers le montrent.
Oui, c'est ça, Anne-Cécile Orgery, plus c'est virtuel et plus c'est matériel, ça c'est un paradoxe qu'il faut rappeler.
Tout à fait, oui, c'est un petit peu comme un iceberg finalement. L'utilisateur voit son équipement à lui, il voit sa connexion internet, et puis il y a toute la partie complètement immergée de l'iceberg qui est le gros réseau énorme d'internet, les câbles qui permettent de connecter tous ces ordinateurs, et puis tous les data centers, tous les serveurs et toutes les infrastructures qui font que ces serveurs sont accessibles H24.
Guillaume Pitron, est-ce que cette illusion d'un virtuel tout à fait propre et dématérialisé, elle a été créée d'un point de vue marketing? Est-ce que ça a été un argument? Est-ce qu'on peut attribuer à des groupes en particulier le fait d'avoir fait du virtuel quelque chose d'immatériel?
Je pense que d'abord ça procède d'une méconnaissance qui n'était pas volontaire de la part des fondateurs même, des pionniers du web, qui imaginaient à côté du monde physique un monde virtuel débarrassé de la matière, dans lequel il n'y aurait pas de matière. Je pense à la déclaration du cyberespace de John Perry Barlow en 96 qui dit « Votre monde à vous », il parle aux dirigeants du monde physique qui n'est pas le nôtre, et dans le nôtre il n'y a pas de matière. Et je pense qu'il le croyait un peu sincèrement. Et puis après, il est venu se greffer là-dessus, sont venus se greffer des mots, alors on parle du cloud, le nuage, mais au départ c'était pas pensé comme étant un terme marketing qui nous empêcherait de comprendre la matérialité de tout ça. N'empêche qu'aujourd'hui, si je tape nuage et que je vais sur Google Images, je vais voir des tas de jolis dessins qui, cette fois-ci, nous induisent volontairement en erreur. Donc oui, après, il y a un marketing qui est venu se greffer là-dessus. Dernier point, tout simplement un téléphone portable. C'est beau, un téléphone portable. Steve Jobs pense ses téléphones portables à l'image, il les veut à l'image des temples bouddhistes zen japonais, parce qu'il trouve que c'est la perfection esthétique, et il veut que ses designers reproduisent cette idée de perfection esthétique, cette pureté, cette virginité. On se retrouve avec des téléphones merveilleux dans les mains, magnifiques, ce sera probablement notre seul contact avec le monde numérique de toute notre existence. Et en fait, on ne peut pas comprendre la complexité de ce qui se cache derrière un produit qui est simple d'utilisation, et on ne peut pas comprendre la pollution derrière un produit qui est beau.
On peut la comprendre, il suffit par contre de le vouloir. Anne-Cécile Orgery, qu'est-ce qui aujourd'hui nous empêche, malgré une volonté, une bonne volonté qu'on peut avoir, nous en tout cas ici autour de cette table, pour comprendre cette pollution numérique? Qu'est-ce qui nous empêche de chiffrer par exemple l'impact écologique du numérique aujourd'hui?
Alors effectivement, c'est une question complexe en fait. Hein. C'est pas comme une voiture par exemple. Une voiture, on peut mettre un capteur CO2 sur le pot d'échappement et puis on peut voir combien ça émet de CO2 pendant la phase usage par exemple. Sur un ordinateur, on peut pas faire ça. Le CO2 qui est émis par l'utilisation de l'ordinateur en phase usage, il est lié à sa consommation électrique, donc lié au mix électrique localement, et ensuite il y a toutes les autres phases du cycle de vie, la phase de fabrication qui est très complexe, c'est un objet très intégré avec beaucoup de ressources premières qui ont été extraites dans plein d'endroits différents du globe. Et donc finalement, cette question, pour pouvoir y répondre, c'est un problème pluridisciplinaire. Il va falloir faire appel à des géologues sur l'exploitation, l'extraction minière, à de la géopolitique, puisque c'est aussi lié, les emplacements des ressources posent des problèmes de géopolitique. Il va falloir faire appel à des spécialistes des processus de fabrication, de chimie, de physique, d'électronique, de sciences industrielles, génie électrique, génie des procédés, et puis finalement à des informaticiens aussi pour comprendre le fonctionnement complexe de toutes ces infrastructures, les logiciels, les applications, les systèmes d'exploitation, la virtualisation, la télécommunication, et puis enfin aux habitudes des utilisateurs, il faudra qui génèrent notamment des habitudes de consommation. Il faudra des spécialistes de sociologie, de philosophie, de psychologie, de sciences économiques et de droit. Donc c'est une question qui est très très pluridisciplinaire, et dans cette équation très pluridisciplinaire, il nous manque des données. C'est-à-dire qu'il y a des données qui ne sont accessibles que par les fabricants, que par les fournisseurs d'accès à Internet, par exemple. Donc les données de trafic, les données d'utilisation, de saturation des antennes, de taux d'utilisation des serveurs, seuls ceux qui fournissent ces services numériques y ont accès. Donc finalement, c'est assez compliqué au final de mettre bout à bout toutes ces données, dont certaines sont manquantes, avec des expertises très variées, pour au final avoir un chiffre.
France Culture, la méthode scientifique, Antoine Beauchamp.
On comprend bien, la pollution numérique, Guillaume Pitron, est un problème à mille facettes et c'est la complexité de combiner toutes ces facettes pour bien comprendre le problème. On le comprend quand même, si on schématise un petit peu, il y a quand même deux grands types de pollution. Une pollution très matérielle à laquelle vous consacriez votre précédent ouvrage, déjà publié chez Les Liens qui Libèrent, qui s'appelle « La guerre des métaux rares », le problème de l'extraction des métaux rares pour la production des outils numériques. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Et après, on parlera de la consommation plus énergétique au data center.
Un téléphone aujourd'hui ne sert pas qu'à téléphoner. Il sert à se géolocaliser, à commander une pizza, à prendre des photos, à se filmer. En fait, les téléphones aujourd'hui sont devenus infiniment complexes, très puissants. Les fabriquer requiert non plus une dizaine de matières premières comme dans les années 60, non plus 30 matières premières comme dans les années 90, mais 50, 60 matières premières. À chaque fois des petits métaux qui sont quelquefois présents à hauteur de quelques grammes, voire moins d'un gramme pour certains d'entre eux. Et donc imaginez qu'il faut multiplier additionner toutes ces matières premières, les fixer sur un téléphone, et donc évidemment ça génère, enfin, les chiffres disent environ de la moitié de la pollution numérique. C'est en fait celle de ce qu'on appelle nos interfaces, téléphone portable, ordinateurs, tablettes, qui sont notre entrée sur le réseau. Mmh. Donc ça, c'est pour la partie matérielle.
On a des moyens quand même d'estimer un petit peu, selon les outils, la quantité de matières premières requises. Je crois qu'il y a un indicateur qui a été mis au point à Wuppertal, qui s'appelle l'indicateur MIPS, pour Material Input Per Unit of Service, qui signifie en gros la quantité de matières requises par rapport au poids final de l'objet. Est-ce que vous auriez des petits exemples à nous donner pour nous faire prendre conscience un petit peu du problème?
Alors ça, c'est dans le deuxième livre.
Oui, dans le deuxième.
Affaire numérique. En fait, j'ai été saisi en fait par et trouvé saisissant en fait cette méthode qui consiste effectivement à considérer que le poids de mon téléphone n'est pas de 150 grammes, qu'il est bien plus lourd que ce que j'ai entre les mains, puisqu'il a fallu mobiliser de la matière en amont. Et donc ce ratio nous raconte en fait tout le tribut matériel de ce monde censément virtuel, de ces technologies qui nous permettent de pénétrer dans le monde virtuel qui est Internet. Il y a un MIPS pour tout. On peut faire le MIPS d'un litre de jus d'orange, d'un t-shirt, d'un jean, d'une chemise, et on peut faire aussi ce MIPS des technologies numériques. Et plus on va vers les technologies numériques qui contiennent des métaux dilués dans l'écorce terrestre, plus le ratio est élevé. Donc un ratio qui peut être de 10 à 1, 30 à 1, 50 à 1, 100 fois plus de matière que le produit fini pour des produits habituels, monte à 1000, 2000, 3000, 4000, et monterait même à 16000 pour une puce. Mmh. Donc il faut des milliers de fois plus de matière que le produit fini. Votre téléphone ne pèse probablement pas 150 grammes, mais 183 kilos. Et donc plus on a des téléphones et des objets qui sont petits, miniaturisés dans la poche, plus paradoxalement leur leg matériel est lourd. Et donc c'est ça qui m'a fait conclure que plus c'est virtuel, plus c'est matériel en fait.
Je vous donne un petit peu des exemples qui sont dans votre livre. Pour un ordinateur de 2 kilos a besoin d'une 1,8 tonnes de matière. Un smartphone, il faut environ 1200 fois son poids. Et 2 grammes, une puce électronique de 2 grammes requiert 32 kilos de matière. C'est vertigineux et ça fait comprendre vraiment l'envergure du problème.
Une puce, c'est plus compliqué à construire qu'un Boeing 747.
Il faut le rappeler aussi. Alors,
je veux dire, il y a plus de sous-traitants pour une puce, pour fabriquer une puce, que pour un Boeing 747. Donc, il y a un impact en termes de déplacement de matière, de logistique, de consommation énergétique qui, ramené au poids de la puce, est complètement sidérant. Mais nos téléphones, aujourd'hui, sont plus puissants que les programmes informatiques qui ont envoyé l'homme sur la Lune dans les années 70.
Anne-Cécile Orgery, sur cette question-là.
Oui, effectivement, de plus en plus, les infrastructures, les objets sont compliqués, mais aussi les infrastructures. Finalement, lorsqu'on accède à un service, qu'on clique sur un site web, sur Internet, il y a des serveurs répartis partout dans le monde qui répondent à ce clic, finalement. Puisque sur une même page web, on peut avoir des services de publicité, des services liés à un fournisseur d'accès, des services liés à un fournisseur d'application, et tout ça hébergé dans des infrastructures cloud.
Et donc, ce qu'on appelle les data centers, c'est ces fameux hangars qui abritent grande quantité de serveurs.
Un hangar très grand quand même, la taille de plusieurs terrains de foot pour la plupart des data centers, donc des grands data centers. Donc effectivement, c'est une complexité, même dans la partie logicielle finalement des infrastructures numériques qui est grandissante de plus en plus.
Guillaume Pitron, sur cette question des data centers, est-ce que vous pourriez, vous qui en avez visité quelques-uns, nous en faire un portrait physique et presque sensoriel, on va dire?
Absolument. Alors d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque je me connecte à Facebook, par exemple, à Instagram, à Twitter, à Snapchat, le compte auquel je me connecte n'est pas sur mon téléphone. Il est dans un centre de données, un data center. Donc je me connecte en permanence en fait à une ferme de données dans laquelle se trouvent des serveurs par milliers, dizaines de milliers, peut-être centaines de milliers. Et en fait, mon compte Facebook est là-bas, il n'est pas sur mon téléphone. Et chaque jour, dit d'ailleurs un expert que j'ai pu interroger, vous vous connectez, on se connecte à probablement une centaine de data centers, mais sans le savoir. Parce qu'à chaque action numérique, il y a forcément un data center et même plusieurs data centers derrière. Alors,
on y reviendra à cette question de la redondance nécessaire.
Absolument. Alors du coup, un data center, donc d'abord, on rentre pas là-dedans comme dans un moulin, c'est compliqué parce que ce sont des infrastructures souvent stratégiques. Si jamais il y a une panne ou si jamais il y a un attentat terroriste dans ce genre d'infrastructure-là, ça pose des questions sur la continuité de service du web. Moi, j'ai pu rentrer dans un data center au nord de la Suède, en Laponie, près du cercle arctique, où refroidissent littéralement nos données, et alors on passe tout un tas de sas de sécurité, et puis on se retrouve dans une immense hangar. Alors il y a des baies qui sont alignées avec les serveurs à l'intérieur, ça clignote, chaque serveur émet un son strident, donc fois le nombre de serveurs, je me rappelle être entré dans une espèce de ruche, et là en fait, selon je me suis rendu compte, c'est qu'en fait Internet émet un son, on peut entendre Internet littéralement. Donc c'est une expérience sensorielle, Internet aussi. Internet s'écoute.
Alors ces data centers-là, il faut les refroidir. On les refroidit bien sûr avec de l'électricité, sauf quand on peut les installer au grand nord, mais ça, il n'y en a pas une quantité énorme. Voilà. Est-ce qu'on sait à peu près combien coûte en termes d'énergie un data center typique?
Alors, on les met dans le nord précisément parce que comme ça, on ouvre la porte du data center. Je vous le schématise.
C'est froid, hein,
et comme ça, le froid rentre naturellement et refroidit les serveurs qui chauffent. Naturellement, c'est pas le cas partout. Il faut refroidir le data center avec des outils de climatisation qui, à peu près, consomment la moitié. Enfin, c'est la moitié de la consommation électrique d'un data center. Quant à la consommation du data center lui-même, d'abord, l'ADEME nous dit, un rapport passionnant, que les centres de données seront le premier poste de consommation électrique du 21e siècle. Le premier. Si vous en prenez un, alors moi je prends l'exemple d'un centre de données de 60 mégawatts, taille, bonne taille, mais pas non plus énorme, qui devait être accordé à Amsterdam en 2015, si ma mémoire est bonne, Amsterdam étant un des gros hubs de data center en Europe. Le raccordement de ce data center dans la banlieue d'Amsterdam nécessitait l'électricité consommée habituellement par une ville de 120 000 habitants. Donc, quant au plus grand data center de la planète qui se trouve au sud de Pékin et qui fait la taille, la superficie de 120 terrains de football, je ne sais pas ce que c'est.
Mais c'est impossible à estimer, mais c'est énorme.
Mais c'est absolument comme ça.
Anne-Cécile Orgery, Guillaume Pitron évoquait un autre problème qui est propre à cette trouille de la coupure, on va dire, qui fait partie de... Enfin, on a toujours la peur de la fin de la continuité, en fait, du numérique. Ça fait partie des grandes angoisses qui provoquent ce qu'on appelle la redondance. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste et pourquoi c'est particulièrement problématique dans cette question-là de la pollution numérique?
Oui, alors effectivement, on s'est habitué à avoir Internet disponible tout le temps, partout en fait. Et ça demande des infrastructures qui soient dimensionnées pour le pic d'utilisation, qui soient capables d'absorber le pic d'utilisation au maximum de la journée, et qui soient aussi capables de réagir en cas de panne éventuelle. Donc, pour cela, il faut multiplier les équipements. Par exemple, dans un centre de calcul, il faut prévoir qu'il puisse y avoir des coupures d'électricité et donc avoir des batteries, par exemple, pour prendre en charge une petite coupure d'électricité ou, comme on l'a entendu au début dans le reportage, des groupes électrogènes pour prendre en charge des coupures électriques un petit peu plus longues. Et en sachant que toutes ces infrastructures, il faut les tester régulièrement. Donc, les groupes électrogènes, on les démarre régulièrement pour être sûr qu'ils soient capable de fonctionner le moment venu. Donc ça, c'est en termes d'infrastructure. Par exemple, aussi un centre de calcul qui voudrait assurer une disponibilité forte, il pourrait également aussi avoir plusieurs accès Internet. via différents fournisseurs d'accès à Internet pour garantir qu'il sera tout le temps disponible, même en cas de panne chez un opérateur. Ou voire même, pour les plus critiques, plusieurs accès électriques, plusieurs réseaux électriques. Comme par exemple aux États-Unis, ça peut être le cas. Donc ça, c'est une redondance tout à fait physique, matérielle, et puis aussi, il y a la redondance, donc, comme on disait, pour absorber le pic d'utilisateurs, et bien dans un centre de calcul, il faut qu'il y ait suffisamment de serveurs qui soient allumés en permanence, parce que ça prend du temps d'allumer un serveur, pour absorber les pics d'utilisation qui peuvent être prévisibles ou pas forcément prévisibles dans le cas de certaines applications. Donc une très forte redondance à la fois matérielle et puis aussi logicielle pour qu'on soit capable, en cas de panne, de réagir très rapidement et de pas perdre d'utilisateurs. Par exemple, des sites de vente en ligne estiment qu'à chaque seconde de latence, ils perdent des utilisateurs. Donc, d'où l'intérêt de cette redondance qui, par contre, pose d'énormes problèmes puisque ça fait un gaspillage de ressources assez conséquent puisqu'il nous faut beaucoup plus de ressources pour satisfaire les utilisateurs.
Guillaume Pitron.
En fait, ce que l'on réalise et ce que l'on découvre, c'est que ce qui coûte écologiquement, c'est de vouloir tout, tout le temps, tout de suite. Moi, je ne peux pas attendre une seconde sur Internet, je suis trop pressé en fait. La latence, c'est le temps que met ma page de ma messagerie Gmail à se charger. Je peux attendre une ou deux secondes, puis après c'est trop long. Et comme nous ne pouvons plus attendre, comme nous sommes drogués à l'immédiateté, en fait tout l'écosystème, toute l'infrastructure, plus exactement Internet, c'est organisé autour de mon impatience. Mmh. De l'urgence qui est la mienne. Et je suis devenu, en fait, sans même le savoir, en fait, un horrible enfant gâté d'internautes qui, en fait, exige que jamais Internet, que jamais le soleil ne se couche sur Internet. Et derrière, ça génère des enjeux infrastructurels et d'organisation absolument colossaux pour l'industrie. Parce qu'il faut que ma donnée soit dans plusieurs endroits en même temps. C'est ce qu'a dit Anne-Cécile Orgery. Comme ça, si jamais le data center 1 s'éteint, il y a un data center miroir qui prend le relais immédiatement. Pas sur la même plaque tectonique, s'il vous plaît.
Bien sûr.
Parce qu'il ne faudrait pas qu'un tremblement de terre ait raison une rencontre sur Tinder. C'est vraiment ça le sujet. Hein. Et ainsi de suite. Et moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut que les data centers soient pas trop loin. Celui de Facebook, donc, ceux de Facebook pour les utilisateurs européens se trouvent dans le nord de l'Arctique, dans le nord de la Suède plus exactement, mais c'est déjà trop loin par rapport à nous, ça pose un problème de latence. Donc en fait, on va se poser la question de rapprocher les centres de données de leurs utilisateurs de façon à ce que la transmission de la donnée soit la plus courte possible. Et en fait, l'ensemble de l'infrastructure numérique, qui est quand même la plus grosse chose qu'on est en train de construire sur Terre, en fait, elle s'est organisée autour de mon impatience et elle serait radicalement différente si j'étais capable d'attendre ne serait-ce qu'une seconde de plus. Mais je n'ai pas cette seconde.
Anne-Cécile Orgery, on est tous vraiment trop impatients maintenant ?
Tout à fait. Et les applications qu'on pousse de plus en plus sont de plus en plus impatientes et de plus en plus gourmandes en données. Hein. Par exemple, la vidéo et peut-être bientôt la réalité augmentée, les véhicules connectés, les véhicules autonomes. Et donc, ça fait que là où avant, on se contentait d'avoir des centres de calcul qui étaient assez distants, donc dans le nord de l'Europe, par exemple, pour les plus gros centres de calcul qui existaient proches de nous, et bien maintenant, on va avoir besoin de centres de calcul de plus en plus près de nous pour ces questions de latence. Puisque la latence qu'on va avoir en chargeant juste une page web ou la latence qu'on va avoir en chargeant des films, en faisant du streaming, elle va être différente. Et donc, il va falloir rapprocher ces centres de calcul de nous, et plutôt que de rapprocher ceux qui existent, ce qui serait un petit peu compliqué, on va en construire de nouveaux. De nouveaux peut-être plus petits, mais beaucoup plus nombreux et beaucoup plus proches des utilisateurs pour réduire ces latences. Et donc, encore plus d'infrastructures qui sont amenées par toutes ces nouvelles applications et ce besoin d'immédiateté qui est de plus en plus présent.
Ce besoin d'immédiateté, ce besoin d'ubiquité aussi, cette capacité qu'on a aujourd'hui à pouvoir regarder une vidéo dans un bus, une vidéo qu'on va regarder avec la 4G. La 4G étant elle-même beaucoup plus énergivore que le Wi-Fi, je crois que c'est 23 fois plus d'énergie consommée par la 4G que par le Wi-Fi. Ce qui nous amène au reportage du jour, parce que parmi les ogres énergétiques à venir dans le domaine du numérique, se profile l'ombre de la 5G. Bonjour Céline Lozen.
Bonjour Antoine.
Vous êtes allé au département informatique et réseau de Télécom Paris Tech pour comprendre comprendre comment on peut estimer ce type d'impact.
Et oui, car derrière les performances annoncées, que ce soit pour le streaming, la télémédecine ou bien l'internet des objets, la question est de savoir si la consommation énergétique va s'amplifier ou non. Selon certains équipementiers, la réponse est non, car il s'agit d'augmenter le trafic des données sans pour autant augmenter la quantité d'énergie. Mais quand on étudie le coût global de plus près, comme l'a fait Marceau Coupchou, qui est professeur à Télécom Paris et à Polytechnique, la neutralité qui est annoncée semble chimérique. Dans le cadre du bureau d'études Eco-Info, il a estimé les différents écueils opaques posés par la 5G à travers notamment l'effet rebond et la surconsommation ou encore la densification des stations, antennes et capteurs. Alors que ce soit au niveau des infrastructures ou bien du comportement des gens, eh bien la 5G induirait bien une surconsommation énergétique que Marceau Coupchou met en lumière dans une tribune publiée sur le site Reporter.
Alors, bon, ce qu'on essaye de faire en recherche, c'est d'essayer d'améliorer l'efficacité énergétique. Donc l'efficacité énergétique, c'est, si vous voulez, le nombre de bits qu'on peut transmettre par unité d'énergie, donc le nombre de bits par joule. Et ça, en fait, il y a des améliorations continues, en fait. Donc, par exemple, on utilise beaucoup plus d'antennes, alors ça peut paraître contre-intuitif, mais disons que ça améliore les débits et l'efficacité énergétique. Le hardware évolue également et consomme moins d'énergie. Les modes veille, c'est-à-dire la station de base, beaucoup de stations de base ne font pas de trafic. Il y a 20% qui trafiquent 80% de tout le trafic. Donc ce qu'on a essayé de faire avec la 5G, c'est de pouvoir les mettre en mode veille, c'est-à-dire essayer de réduire leur consommation quand elles ne trafiquent pas. Alors en 4G, c'était vraiment difficile parce que la station émettait tout le temps des signaux pour être reconnu d'un utilisateur qui arriverait dans la cellule. Alors qu'en 5G, on va essayer d'envoyer ces signaux vraiment quand on en a besoin. Donc ça permet à la station, si elle ne trafique pas, de pouvoir s'éteindre pendant des périodes plus longues.
Elle s'adapte et elle module son activité.
Voilà, elle module son activité, ouais. Donc ça, ça fait gagner des gains. Mais bon, il faut voir qu'il y a pas mal de techniques qui pourraient aussi être utilisées pour la 4G. C'est-à-dire que même les équipements 4G deviennent de plus en plus efficaces au fil du temps.
Oui, parce qu'il y a un phénomène de stratification des technologies. Là, la 5G s'ampute sur la 4G et sur la 3G. Et du coup, il y a toutes les gammes qui s'ajoutent.
Ouais, c'est ce que j'avais essayé de montrer dans la tribune de reporter. En fait, si on regarde les équipements 2G, 3G, 4G, 5G, en fait, ils s'accumulent au fil du temps. Alors on pourrait se dire, bon, pourquoi ne pas éteindre la 2G, pourquoi ne pas éteindre la 3G, puisque finalement, déjà parce qu'il y a beaucoup de terminaux qui ne sont pas encore 4G. Et en plus, avec l'émergence de l'Internet des objets, eh bien, il y a énormément de capteurs, d'objets, qui sont en fait connectés par la 2G et la 3G. Donc pour les opérateurs, c'est pas possible d'éteindre un réseau comme la 2G ou la 3G.
En fait, la portée de la 5G, parfois, est courte, c'est des courtes distances, donc ça nécessite... Oui. Une multiplication des senseurs, des petites stations, qui sont nichées un peu partout dans les zones urbaines.
Voilà, donc il y a un paradoxe, c'est que même si l'efficacité énergétique peut être multipliée par 10, en fait, la consommation électrique va augmenter. Donc c'est un peu le paradoxe, parce que jusqu'ici on parlait de nombre de bits par joule, mais comme on va transmettre beaucoup plus de bits et qu'on va densifier le réseau, c'est-à-dire densifier le réseau, ça veut dire ajouter de nombreuses antennes, bien, au global, la consommation électrique va augmenter de manière très importante et c'est une des clés pour les gros débits.
Oui, puisque les promesses sont assez colossales en termes de téléchargement, de transfert de données, même pour des infrastructures telles que les hôpitaux, où vous parliez d'Internet des objets, donc tout ça nécessite une performance phénoménale.
Vraiment, la différence, c'est que là, maintenant, la 5G, ça va s'adresser aux industries. On va essayer de répondre aux besoins d'industries aussi différentes que la santé, les robots dans les usines, etc., la logistique, etc. Donc le réseau doit pouvoir traiter non seulement des gros débits, mais aussi des petites données qui sont envoyées, comme une température, une coordonnée GPS, par des petits objets, mais qui sont en nombre colossal. Et ça, par exemple, la 4G n'est pas capable de le faire. Donc pour ça, il faut développer des équipements, ça coûte de l'énergie, c'est clair.
Ça coûte de l'énergie, est-ce qu'on arrive à quantifier ça, le coût ?
Alors là, c'est compliqué. Après, combien consomme un réseau ? C'est là qu'on ne sait pas trop. On ne sait pas trop parce que les chiffres sont cachés, en fait. Enfin, les chiffres,
il n'y a pas de transparence de la part des opérateurs ?
Des constructeurs, surtout. Ouais, des constructeurs. Et les constructeurs, bon, ils sont frileux à donner leur valeur. Donc, parce qu'ils sont dans un système concurrentiel où ils veulent, bien sûr, les opérateurs connaissent les valeurs, mais bon, le grand public ne les connaît pas.
Alors vous, de quelle manière vous arrivez à quantifier ça? Comment vous analysez ça?
C'est ça, c'est là où est le problème, en fait. On fait des hypothèses théoriques, ou alors on part des données qui sont publiées publiquement, en fait. Mais elles sont très variables, donc c'est un peu difficile. Là, j'ai un graphe, par exemple, celui-là. Donc c'est issu d'un cabinet de conseil. L'illustration, c'est que en fait, on essaie d'observer l'augmentation du trafic dans le temps et on essaye de dater à partir de quel moment à peu près les technologies se sont apparues. Donc passage de 2G à 3G, de 3G à 4G. Et puis dans certains pays où la 5G est déjà bien lancée, par exemple comme en Corée, ben on peut aussi regarder l'augmentation du trafic. Donc on voit qu'il y a des ruptures, en fait, il y a des ruptures de courbes qui s'expliquent tout simplement par le fait que les débits sont plus importants, les capacités sont plus importantes, et donc les utilisateurs les utilisent tout simplement, quoi.
Parce que c'est là,
ouais, exactement. Mon problème en tant qu'ingénieur, alors ingénieur c'est super pour résoudre des problèmes techniques, mais en fait le problème il est multidimensionnel, en fait il concerne plein de disciplines. Par exemple, ces effets rebonds, les gains d'efficacité sur lesquels je travaille, c'est difficile pour un ingénieur parce que ça remet en cause tout ce qu'il a fait depuis le début, finalement. Enfin, tout ce qu'il a essayé de trouver pour améliorer les choses, etc., augmenter les performances, c'est comme une claque, en fait, hein, pour un chercheur comme moi. Donc, il faut travailler avec des gens, des sciences sociales, etc., pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. C'est ça, un peu l'enjeu, quoi. Et puis, il faut commencer à se poser des questions sur qu'est-ce qu'on veut faire de la technologie. Est-ce qu'il ne faut pas limiter les débits, comme on limite la vitesse sur l'autoroute, par exemple. Et est-ce qu'il ne faut pas utiliser la technologie plutôt pour répondre à des besoins fondamentaux que sont l'éducation, la santé, la culture, ce genre de choses? Est-ce qu'il faut laisser, en fait, la technologie aux lois du marché? Moi, c'est ce genre d'interrogation que je me pose.
Voilà pour ce reportage à Télécom Paris Tech. Une réaction à ce reportage où il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées, Guillaume Pitron, notamment cette question de l'effet rebond, le fait que plus on fabrique des outils performants, plus on consomme et finalement la consommation d'énergie et la pollution qui va avec est croissante et de façon exponentielle.
Bon, c'était vachement bien en plus, j'ai appris plein de trucs, mais c'est une course de vitesse. D'un côté, la technologie progresse à une vitesse folle. Et de l'autre, nos besoins et notre consommation de données et donc d'interface, téléphone portable notamment, pour tout simplement consommer davantage ces données sous forme de nouveaux services numériques. Tout cela se nourrit, participe de l'expansion de l'univers numérique. Bien malin celui qui peut dire qui, à l'arrivée, prend le dessus sur l'autre. Aujourd'hui, on a toujours été capable, les ingénieurs ont été capables de répondre en fait à la hausse vertigineuse du trafic avec plus de câbles, avec plus de centres de données, avec des centres de données plus puissants. Donc, en ce sens, il y a aussi un espoir que tout cela soit mitigé. Mais, et c'est avec la 5G, on rentre dans un autre Internet. En fait, la 5G va changer probablement la nature d'Internet. Ce sera plus l'Internet à la papa qu'on connaissait. Ça va être l'Internet... La capacité de la 5G à multiplier, notamment par 10, je crois que ce chiffre est à peu près plausible, le débit, si vous voulez, ça va nous faire entrer de plein pied dans l'Internet des objets. On va connecter des milliards, des dizaines, peut-être des centaines de milliards d'objets qui vont produire de l'information pour lesquels il faudra encore de la 5G pour faire transiter cette information. Ça va produire l'Internet des corps. Ça va produire l'Internet des sens, ça va produire l'Internet de tout, dit Steve Case, le fondateur de l'entreprise américaine AOL, dans un livre fascinant 2017, qui dit on arrive à l'Internet de tout. Je crois qu'on n'a pas idée de cette explosion de l'univers numérique qui se profile devant nous, des nouveaux usages. Et évidemment que la question environnementale est complètement centrale face à cette vague qui arrive.
Parce que si on est tous pucés, on sera tous des déchets numériques. Anne-Cécile Orgerie, une réaction à ce reportage, et je crois que vous souhaitiez réagir au propos de Guillaume Pitron.
Oui, tout à fait, c'est pour apporter peut-être une autre illustration qui n'est pas la 5G à cet essoufflement finalement de l'efficacité énergétique, et c'est des lois qui sont bien connues dans le domaine des architectures des ordinateurs, dans le domaine des processeurs en fait. Donc souvent on connaît la loi qui est empirique, hein, la loi de Moore qui stipule que la densité des transistors elle double tous les 2 ans. donc sous des effets économiques, on arrive à améliorer la densité des transistors et à faire doubler tous les deux ans cette densité. Et il y a une autre loi empirique aussi, qui est la loi de Dennard, qui postule que la densité énergétique des transistors, elle reste constante. C'est-à-dire qu'on double les transistors, mais leur consommation énergétique, on fait suffisamment de progrès dans le même temps pour améliorer considérablement, doubler l'efficacité énergétique, et donc la densité énergétique des transistors, elle reste constante. Sauf que cette loi, elle était vraie jusqu'en 2006. Et depuis 2006, on augmente le nombre de la densité, ce n'est plus vrai. Pourquoi ? Parce qu'il y a des pertes de courant dans les transistors, puisqu'on a atteint des dimensions de gravure des circuits imprimés qui sont très très petites. Et ces pertes de courant, elles génèrent beaucoup de chaleur. Et cette chaleur fait que l'efficacité énergétique, on n'est pas capable d'évacuer suffisamment rapidement cette chaleur, et donc l'efficacité énergétique en prend un coup. Mmh. Alors comment on a résolu ce problème ? Eh bien, plutôt que d'avoir des processeurs dont on augmente la fréquence d'horloge des processeurs, donc le nombre d'opérations qu'ils peuvent exécuter en une seconde, eh bien, depuis 2006, on augmente le nombre de cœurs des processeurs. Donc c'est-à-dire qu'on parallélise, ils peuvent effectuer plusieurs opérations en parallèle à chaque cycle d'horloge, mais ceci, c'est bénéfique que pour les applications qui sont capables de faire plusieurs opérations parallèles. Et puis l'augmentation du nombre de cœurs, ça pose toujours des problèmes de dissipation thermique qui font qu'on ne peut pas faire tourner tous les cœurs à fond en même temps. Et ça, c'est appelé le dark silicon, donc le silicium sombre, c'est-à-dire qu'on achète aujourd'hui des ordinateurs, des smartphones, etc., dont on n'est pas capable d'utiliser à fond les performances parce que pour ces problèmes thermiques finalement. Donc là, on voit qu'on atteint vraiment les limites de ce qu'on peut faire en termes de matériel d'efficacité énergétique. Et donc non seulement il y a l'effet rebond qui nous rattrape parce qu'on a de plus en plus d'usages, mais d'un autre côté, en plus, on ne va pas être capable d'augmenter comme ça cette efficacité énergétique indéfiniment. Et là, on atteint, en termes de processeur, vraiment la limite.
Et le problème est vertigineux. On va essayer quand même d'y trouver des réponses, ou en tout cas d'apporter des petites pistes de réflexion pour améliorer, ou en tout cas limiter ces effets néfastes du numérique sur l'environnement et sur l'écologie. Mais avant de poursuivre notre échange sur la pollution numérique, il est l'heure de retrouver, comme chaque mercredi, la recherche montre en main. Une recherche montre en main avec aujourd'hui Christina Herzog, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous avez soutenu votre thèse intitulée « Contribution à la modélisation avec un système multi-agent du transfert technologique en Green IT », une thèse réalisée en partenariat avec l'Université Paul Sabatier de Toulouse et l'INRIA, et c'est à vous.
Oui, parce que moi je trouvais que notamment dans le sujet de Green IT, on a plein de choses encore à améliorer. Il y a le greenwashing, c'est souvent proposé par des entreprises qui ouvrent la fenêtre pour laisser sortir la chaleur. Mais par contre, chacun entre nous peut aussi économiser de l'énergie en disant « je ne dois pas utiliser chaque programme ». Toujours, je peux par exemple adapter aussi à mes contraintes du travail, et il faut surtout être éco-responsable. Éco-responsable, ça veut dire pour moi, c'est Green IT, c'est pas ouvrir la fenêtre pour laisser la chaleur sortir, mais c'est aussi pour faire un transfert de savoir-faire de l'université vers le centre de recherche, vers les entreprises. Pour moi, c'est super important de dire comment on pourrait économiser l'énergie. Comment je peux ? Est-ce que j'ai besoin vraiment chaque fois Excel ? Est-ce que j'ai besoin vraiment chaque fois Word ? Est-ce que je dois vraiment lire tous mes mails tous les 2 secondes? Non, on n'a pas besoin de ça. Si mon mail arrive 2 minutes après, ces 2 minutes, je peux économiser de l'énergie. Et ça, c'est important pour moi. Green IT, c'est entre le hardware, middleware et le software. Malheureusement, avec mon startup, j'ai vu qu'il y a des centre de calcul qui m'ont dit, mais pourquoi je pourrais économiser de l'énergie? Parce que moi, je facture 20 000 euros par mois à mes clients. S'ils utilisent autant de l'énergie, ok, pas mon problème. Mais je voudrais que cet centre de calcul pourrait aussi dire non, si je pourrais sauver de l'énergie parce que je n'ai pas besoin autant de cooling pour le centre de calcul. Aujourd'hui, on voit que une grande serveur, il pourrait tourner à 20, 22 degrés. Il y a 20 ans, on a dit non, il faut avoir une cooling jusqu'au 15 degrés. Aujourd'hui, on a fait tellement de progrès, mais les progrès est déjà mal expliqué aux clients. Il est mal vraiment communiqué parce qu'on a aujourd'hui plein de possibilités d'économiser l'énergie. Je trouve que c'est important. Ma thèse, ça a été une partie informatique, une partie management. Je me suis occupée de transfert de technologie avec la modélisation, avec un système multi-agent, pour savoir pourquoi ce transfert de communication, de savoir-faire, ne marche pas aujourd'hui en France. Je me suis occupée de différents pays, Israël, l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis. Et j'ai vu qu'il y a une grande différence entre la utilisation de l'énergie et aussi de l'économisation de l'énergie dans les centres de calcul, mais aussi les utilisateurs. Mmh. Aujourd'hui, on ferme l'ordinateur, mais il reste toujours un tout petit peu allumé. On pourrait être un peu plus vigilant. Quand je rentre dans mon entreprise, qu'est-ce que je fais? J'ouvre la porte. Ok. J'utilise la machine de café. Je lis mes mails. Je sais pas. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je parle avec la secrétaire. Et tout ça, ça fait un impact sur la consommation de l'énergie. Et pendant tout ce temps-là, il n'a pas besoin qu'un grand centre de calcul est déjà prêt pour donner ces données. C'est pour ça que je me suis intéressée, mais comment on pourrait faire le transfert? Parce que j'ai vu qu'en France, il y a un grand problème entre la communication des entreprises avec des universités, des centres de recherche, des étudiants.
Et on va en parler justement de ce problème de communication, mais aussi des enjeux qu'il y a à se responsabiliser, Guillaume Pitron, sur ce numérique, voilà, ces usages un petit peu modérés, réalistes, on va dire, du numérique. Que peut-on faire à notre échelle individuelle pour justement empêcher cette pollution énorme?
En tout cas, je suis parfaitement d'accord avec ce qui a été dit. Il y a des solutions techniques pour améliorer l'impact environnemental d'Internet, mais foncièrement, il y a des immenses enjeux de changement de mode de consommation. On part de très loin parce que Internet, le numérique, ce sont des technologies qui nous ont rendus infiniment, immensément puissants, individuels, chacun que nous sommes. Nous commandons du bout des doigts des centaines d'assistants algorithmiques. Nous sommes devenus des demi-dieux avec cette technologie. Et à ce moment-là, on nous parle de quoi? D'interdit, on nous parle de limiter, de limite, on nous parle de prioriser un usage plutôt qu'un autre. Donc, on vient mettre dans tous ces usages la question, un tabou, on vient glisser un tabou qui est celui de la limitation. Et donc, c'est très très difficile d'accepter cela. Évidemment que d'abord, travailler directement sur la durée de vie de nos téléphones portables, nos interfaces en général, c'est fondamental. Si effectivement les interfaces, c'est la moitié de la pollution numérique, bah, imaginez que je garde mon téléphone 2 ans de plus, au lieu de 2 ans, je le garde 4 ans, vous divisez par 2 ce poste de pollution qui déjà lui-même représente la moitié de la pollution numérique. Donc c'est colossal. Je suis plus inquiet et plus dubitatif sur les données en fait, parce que, alors oui, on peut effectivement se dire qu'on va consommer moins de données, nettoyer son email. Dans ce livre, L'Enfer numérique, je suis allé notamment en Estonie rencontrer Taneli Ovril, cette militante estonienne qui a créé le premier World Digital Cleanup Day. Donc c'est un jour où tout le monde, des centaines de milliers d'internautes, se greffent sur un site internet avec un tuto pour nettoyer leur boîte mail, nettoyer leur iCloud qui est plein de vieilles vidéos dont ils ne connaissaient pas l'existence. Et du coup, à l'arrivée, ça permet de sauver de la donnée. Et de, voilà. Mais simplement, face à l'internet de tout et à la production de machines, de données par les machines, pour les machines, traitées par des machines pour faire des services qui vont être de plus en plus des services industriels, d'entreprises à l'entreprise, nettoyer mon email, c'est comme vider l'océan à la petite cuillère, quoi. Et encore, aller trouver la cuillère. Donc, je suis un peu inquiet quant à notre capacité à nous, individuellement, à vraiment agir sur cette question de la consommation de données. Et restent ces immenses questions qui ont été évoquées tout à l'heure par ce chercheur dans le reportage, qui est celle de la limitation. Vraiment très rapidement, la Chine, il y a 2 jours, a dit que dorénavant, les jeunes de 14 ans ne pourraient pas aller plus de 40 minutes par jour sur TikTok. Il faut s'appeler la Chine pour pouvoir prendre des décisions liberticides pareilles, mais tout d'un coup, la question de l'interdit a été posée.
Et tout ça va à l'encontre, en plus, de l'idéal qui entoure, bien sûr, Internet et ces usages-là. Toutes ces questions autour de la neutralité du net qui feront sans doute partie d'un autre sujet de cette émission, puisque c'est un autre thème encore. La liberté, est-ce qu'il faut contraindre, est-ce qu'il faut choisir les contenus qu'on diffuse ou pas? Ça, c'est un sujet encore très vaste.
Si on limite la bande passante, si on se dit qu'il faut remettre de la limite là-dedans, alors dans ce cas-là, cette bande passante, elle a peut-être intérêt à être réservée à l'hôpital connecté plutôt qu'à une vidéo sur TikTok. Mais qu'est-ce qui est bon dans Internet? Quel est le bon Internet? Quel est le mauvais Internet?
Question du bon chasseur.
Ceux qui pensent de l'hôpital connecté à la sortie d'un lycée, ils vous diront que le plus important pour eux, c'est TikTok. Donc ça pose des questions immenses, mais ça pose des questions qui ne sont pas, voilà, qui sont profondément sociales, politiques, et en fait des questions qu'on ne veut tout simplement pas se poser aujourd'hui.
Anne-Cécile Orgery, on parlait des enjeux à raisonner nos comportements individuels en matière de numérique. Collectivement, quelles pistes vous voyez, vous, en tant que chercheuse, avec vos collègues scientifiques, pour limiter cette pollution numérique?
Alors effectivement, donc sur la partie informatique, on en a parlé un petit peu, l'efficacité énergétique des infrastructures s'améliore, hein, comme le disait Marceau Coupchou dans le reportage, la 5G va améliorer l'efficacité énergétique, et ça c'est quand même un point positif des technologies, de chercher à améliorer leur efficacité énergétique. Malheureusement, on est rattrapé par les effets rebonds, et c'est là où les effets rebonds, ils jouent sur les usages. On n'a pas encore posé le mot de sobriété numérique, mais ça, c'est des choses qui jouent sur les usages, sur les habitudes des utilisateurs, et comme on le disait tout à l'heure, ça pose des questions de choix de société qui font appel à d'autres domaines de la recherche, donc plus en sociologie, sur lesquels je suis beaucoup moins experte.
Guillaume Pitron, sur cette question, voilà, des pistes collectives, enfin en tout cas, voilà, sur cette réduction de la pollution numérique, est-ce que vous voyez quand même des pistes intéressantes à évoquer? Et puis on peut parler quand même d'exemples un peu vertueux des sites internet, des applications qui ne stockent pas des quantités de données énormes. Ça, c'est quand même, voilà, essayons d'être un tout petit peu optimiste, même si bien sûr. C'est pas facile de l'être.
En fait, j'en profite dans ce livre, L'Enfer numérique, pour faire une galerie de portraits. Ayant voyagé un peu autour du monde pour voir Internet, j'ai rencontré des gens qui font des choses absolument extraordinaires. Cette militante estonienne dont j'ai parlé, il y a aussi un jeune entrepreneur néerlandais, Joost de Cleaver, qui a créé une entreprise qui s'appelle Closing the Loop. Et en fait, lui, comprenant que les téléphones portables, les vieux téléphones portables partent d'Europe et terminent en Afrique, lui, il les ramène. Il essaye de créer un modèle économique pour que les téléphones portables reviennent de l'Afrique dans le sens inverse de l'Europe et pour pouvoir les recycler. Fairphone, qui est une entreprise néerlandaise également, est une entreprise qui a mis au point le téléphone le plus écologique du monde. En tout cas, le moins sale du monde. Et qui est un téléphone qui est réparable, donc vous avez un problème avec la caméra, vous changez la caméra, vous changez pas le téléphone portable. Donc ça, c'est des superbes exemples. J'ai rencontré un pêcheur néerlandais aussi, qui en fait recycle la toile du net qui dort au fond des océans. Tous ces câbles par lesquels transite l'information, abandonnés au bout de 10-15 ans parce que personne n'a la prévenance morale de les remonter, bah quelqu'un, ce monsieur, les remonte et va les chercher au fin fond de l'Atlantique Nord et revient avec des milliers de kilomètres de câbles sous-marins pour les recycler. Donc il y a plein d'exemples qui montrent que c'est effectivement des rencontres limitées dans le temps et dans l'espace, mais il y a aussi à travers ces gens-là des tas de raisons de se réjouir, de voir des gens qui concrètement prennent leur avenir en main. Et puis on peut ajouter après les Ripper Café, tout ça, tous ces phénomènes de Fab Lab, comme on dit, avec cette volonté très militante de venir systématiquement réparer les produits. Il y a plein d'entreprises qui également se sont créées, je pense à FXIT aux États-Unis, à Spareka en France, pour en fait rendre les produits plus durables. Et comme le dit la fondatrice des Ripper Café, Martine Postma, que j'ai rencontrée à Amsterdam, les gens doivent aussi, vont progressivement prendre conscience que des produits durables, des produits recyclables, sont des produits désirables.
Mmh. Anne-Cécile Orgery.
Oui, tout à fait. Et du point de vue donc recyclé, mais aussi allonger la durée de vie. Du point de vue des utilisateurs, les principaux leviers, puisqu'ils n'ont pas franchement de levier direct sur les infrastructures dont on parlait tout à l'heure, les centres de calcul, les grands réseaux, etc. Par contre, ils ont plus d'impact sur leurs propres équipements. Et donc, la phase de fabrication des équipements est très impactante. Par exemple, pour un smartphone, près de 80% des émissions de gaz à effet de serre sont émises pendant la phase de fabrication, voire de distribution, donc d'acheminement jusqu'à l'utilisateur de ces smartphones, si on les garde 3 ans. Donc ce 80% par rapport à 3 ans d'utilisation. Donc vraiment, garder plus longtemps les équipements, 3 ans, c'est bien supérieur à la durée de vie en première main d'utilisation des smartphones en France. Donc allonger la durée de vie de ces équipements, c'est primordial, et éteindre les équipements qui ne sont pas utilisés. Donc dans le reportage de la doctorante Christina Herzog, elle parlait de toutes ces infrastructures qui sont allumées pour rien, et on peut penser par exemple à nos box internet, qui sont allumées en permanence, qui consomment 15 à 30 watts en permanence, alors qu'elles ne sont finalement que utilisées quelques heures par jour.
Guillaume Pitron.
Il y a aussi un sujet qu'on n'a pas évoqué, c'est la captologie, ce qu'on appelle la captologie, c'est-à-dire ces techniques qui sont développées par notamment les GAFAM, donc les grandes entreprises du secteur numérique américain, pour nous rendre accro à nos écrans. Alors on en parle sous l'angle de difficultés à nous concentrer au jour le jour, on en parle sous l'angle des effets psychologiques, mais c'est aussi un effet environnemental. Si on peut mieux percevoir, mieux comprendre ces techniques marketing qui font qu'on n'arrive pas à se séparer de son téléphone et qu'on y retourne 50 fois par jour pour créer de la dopamine, si on met à jour ces techniques-là, eh bien, on est peut-être en mesure de mieux les comprendre et puis peut-être de moins aller sur son téléphone portable et donc de moins consommer de données. Il y a une couleur dont on est devenu complètement accro sans vraiment le savoir, c'est le bleu. Et en fait, le bleu et même le rouge sont des couleurs qui génèrent en fait un engagement accru sur les sites web. Et même un bleu en particulier qui a été choisi par des ordinateurs par l'entreprise Bing il y a quelques années. Et ce bleu, choisi parmi 16 millions de nuances de bleu, qui porte un nom à coucher dehors que j'ai oublié, et ben ce bleu-là est connu, dit Bing, pour rapporter 80 millions de dollars de plus à Bing chaque année. Parce qu'en fait, ça accélère l'engagement. Et de même que le contraste entre le bleu et le rouge, et c'est pour ça que vous retrouvez du rouge sur les notifications. Je pense que comprendre ça, étudier ces mécanismes-là psychologiques, ça peut avoir aussi des impacts écologiques positifs.
Et on n'a pas pu en parler, mais lutter aussi pour un numérique plus propre, c'est aussi lutter pour les libertés individuelles, puisque toutes nos données sont stockées, nos données individuelles et personnelles sont stockées, et ça dépense de l'énergie. Donc voilà, essayez de ne pas accepter tous les cookies. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux, Guillaume Pitron, Anne-Cécile Orgery, d'être venus nous parler de cette question vraiment passionnante de la pollution numérique, mais néanmoins très problématique. Guillaume Pitron, je rappelle le titre de votre enquête tout aussi passionnante, L'enfer numérique, voyage au bout d'un like, qui est paru aux éditions Les liens qui libèrent. Un grand merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Natacha Triou, Mariam Ibrahim, Céline Lozen, Alexandra Delbo, Loïc Dutois, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Nicolas Martin, à la réalisation Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui Marie-Claire Oumabadi. La méthode scientifique, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pourrez réécouter cette émission sur le site franceculture.fr ou encore sur l'appli Radio France, et ça, c'est à l'infini.